RFI 7h44 à Paris, plus qu'un quart d'heure avant l'ouverture des bureaux de vote en Allemagne.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et une campagne éclair et mouvementée qui se termine. Un scrutin de tous les dangers est sans doute historique. En Allemagne, ce matin, les bureaux de vote s'apprêtent à ouvrir pour des élections législatives anticipées qui marqueront sans doute la fin du mandat d'Olaf Scholz au poste de chancelier. Le candidat CDU de la droite conservatrice, Friedrich Merz, est largement favori. Mais ce qui attire les regards du monde entier, c'est évidemment le parti qui occupe la deuxième place dans les sondages. Après une campagne marquée par des attaques terroristes et dominée par les débats sur l'immigration, l'AFD, d'extrême droite, proche de la mouvance néo-nazie, est crédité de 20% des intentions de voix. Ce serait un tournant pour le pays, situation inédite depuis 1945, qui inquiète beaucoup d'Allemands. Reportage à Dortmund, dans l'est de l'Allemagne, de notre envoyé spécial, Julien Chavanne.
Samedi matin, 10h, c'est l'heure du cours d'allemand à l'association Train of Hope. Une dizaine de femmes sont là, cahiers sur la table. Masma Husseini a quitté l'Afghanistan il y a 10 ans. Le succès de l'AFD lui fait peur. Elle raconte avoir rejoint l'Allemagne pour fuir l'oppression des talibans. Alors se retrouver aujourd'hui, pointée du doigt, stigmatisée par la deuxième force politique d'Allemagne, la déçoit énormément. L'association Train of Hope, le train de l'espoir, a été créée par Fatma Kajakurtlu en 2015, quand Angela Merkel a ouvert les portes du pays aux réfugiés syriens. Pour cette élue municipale du parti de gauche, Die Linke, une AFD forte au Bundestag serait catastrophique.
Ils vont faire des lois différentes qui vont rendre la vie des étrangers plus difficile qu'elle ne l'est en réalité. C'est déjà dur, mais ça va le devenir encore plus. On a le sentiment de ne pas être le bienvenu ici. On ne peut jamais dire « Ok, c'est chez moi, je peux vivre ici en paix ». Ce n'est pas possible.
David Digman organise à sa façon la résistance. Il s'occupe à Dortmund de la branche jeunesse de la DGB, la principale confédération allemande de syndicats. Il donne des cours dans des collèges pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l'AFD, un parti nazi, selon ses mots.
Beaucoup de gens ne se sentent pas assez pris en compte par les grands partis comme le SPD ou la CDU. Et l'AFD a des réponses très faciles à certaines questions. Le problème, c'est que ces réponses sont racistes.
L'AFD prospère chez les jeunes et elle séduit de plus en plus parmi la classe ouvrière. Sur la place centrale de Dortmund, le grand syndicat de la métallurgie IG Metall organise un rassemblement. On y croise Marcel, casque sur la tête. Il tient une pancarte où il est écrit
« L'AFD n'est pas du côté des travailleurs ».
Membre du Parti communiste, il travaille chez ThyssenKrupp.
Je suis contre l'AFD et je veux que l'AFD soit interdite parce qu'ils sont fascistes et nous devons donc lutter contre l'AFD.
S'il devient chancelier, Friedrich Merz a exclu de gouverner avec l'AFD, mais le parti d'Alice Weidel espère obtenir suffisamment de voix pour devenir incontournable dans le prochain Parlement. Julien Chavanne, Dortmund, RFI.
Et l'Allemagne, on retourne dans moins de 15 minutes maintenant en direct avec notre correspondant Pascal Thibault dans le prochain journal.
RFI Matin.
Et à la une de l'actualité au Proche-Orient, le Hamas accuse Israël de violation flagrante de l'accord de trêve. La libération des 602 prisonniers palestiniens prévus hier n'aura pas lieu, dit Israël, tant que les cérémonies humiliantes ne cesseront pas lors des libérations d'otages, des mises en scène dénoncées à plusieurs reprises par Israël, l'ONU et la Croix-Rouge. On les a encore vues hier lors de la libération de 5 des 6 otages relâchés par le Hamas. Le mouvement palestinien qui a aussi publié une vidéo montrant 2 otages toujours entre ses mains, regardant dans les libérations à la télévision. À la une également, un triste anniversaire et une édition spéciale demain matin sur RFI en direct de Kiev pour les 3 ans de l'invasion russe de l'Ukraine. À cette occasion, le Royaume-Uni annonce qu'il va dévoiler ce lundi un important train de sanctions contre la Russie. Le Premier ministre britannique Keir Starmer déclare qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de soutenir Kiev dans une tribune publiée par l'hebdomadaire britannique The Sun ce dimanche. Et puis au Liban, des dizaines de milliers de personnes attendu au sud de Beyrouth aujourd'hui pour prendre part aux funérailles d'Hassan Nasrallah, l'ancien chef du Hezbollah, tué fin septembre dernier par l'armée israélienne. 6h49 en temps universel. Et elle nous présente ses têtes d'affiche, comme chaque dimanche sur RFI. Denise Epoté de TV5 Monde, au téléphone de Simon Bourtembourg.
Bonjour Denise.
Bonjour Simon.
Sur la première marche de votre podium cette semaine, un médecin maroco-américain, après une spécialisation en neurosciences obtenue à Boston, Youssef El Azouzi intègre l'école de médecine d'Assibadem en Turquie. En 2020, il a donc mis au point Aorto Médical, une innovation destinée aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Une maladie, Denise, qui touche 64 millions de personnes dans le monde.
C'est par peur de s'installer dans la routine en soignant un patient après l'autre que Youssef El Azouzi s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec comme objectif de changer la façon de pratiquer la médecine. En 2020, il lance sa start-up Aorto Médical et conçoit un dispositif pour aider les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. L'appareil modifie la direction du flux sanguin afin qu'il soit prioritaire pour les zones les plus importantes du corps d'un patient souffrant d'insuffisance cardiaque. En somme, une optimisation du flux sanguin vers les organes critiques, le foie et les reins, qui affectent la qualité de vie du patient. Youssef El Azouzi se félicite d'avoir repensé le dispositif d'une endoprothèse qui, en règle générale, sert dans le traitement de l'anévrisme de l'aorte. Grâce à Aorto Médical, le coût du traitement pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale chronique est divisé par 4. Par ailleurs, l'innovation permet d'éviter la chirurgie thoracique ouverte et invasive et l'usage d'une pompe cardiaque artificielle. Après des tests réalisés à grande échelle sur des animaux en France et aux États-Unis, les premiers essais cliniques sur l'homme seront réalisés cette année au Maroc. Pour cette innovation, Youssef El Azouzi a remporté le prix du meilleur inventeur de la région MENA, décerné par la Fondation du Qatar.
Et votre seconde tête d'affiche, Denise, est également originaire du Maroc. Ingénieur en management industriel et diplômé de l'université Mohamed VI Polytechnique, Mohamed Amin Hedji a mis au point Blue Dove, une solution intelligente destinée au système de télésurveillance et de vente.
Étudiant sur le campus de l'UM6P, Mohamed Amin Hedji voulait régler la gestion des longues files d'attente devant le restaurant universitaire. Il conçoit Zark, un moteur d'intelligence artificielle alimentant les caméras de télésurveillance et qui permet d'améliorer la sécurité et d'accroître les ventes. Le marketing ciblé en magasin, mais également de gérer les foules. À ses patients en Afrique, Blue Dove propose de connecter les caméras de surveillance au logiciel Zark qui, en temps réel, traite les images. Mohamed Amin Hedji travaille sur le terrain juridique pour partir à la conquête de l'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient. À l'horizon 2030, la start-up Blue Dove espère atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. L'ingénieur a remporté plusieurs distinctions, notamment le trophée de l'innovation lors du forum sur l'intelligence artificielle et celui du Smart Port Challenge, deux événements qui se sont tenus en Afrique. Il a par ailleurs été soutenu par des programmes prestigieux tels que le 212 Founders, organisé par le Royaume du Maroc, et le Plug and Play.
Denise Epoté avec Simon Bourtembourg.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et on vous en parlait hier matin au Sénégal, la 6e édition du Dakar Music Expo s'est terminée hier soir. Grand rendez-vous pour les professionnels de la musique d'Afrique et d'ailleurs. 4 jours de rencontres, de conférences, de concerts, avec l'objectif de mettre en lien les musiciens du continent et les acteurs de l'industrie. L'occasion aussi de montrer des pans méconnus de la musique africaine avec cette année le jazz africain à l'honneur, un genre musical encore assez confidentiel sur le continent, mais qui peut s'exporter avec du travail et une bonne stratégie. Reportage, Juliette Dubois.
On pense qu'il n'y a pas de jazz en Afrique, c'est ce qu'affirme volontairement provocateur Maouto Dik du festival Togo Jazz. Le genre souffre d'une mauvaise presse et Kossi Maoun, batteur togolais, le ressent depuis qu'il s'est lancé en solo en 2019.
C'est très difficile de gagner sa vie en tant que musicien du jazz en Afrique. Ici en Afrique, on aime danser, on aime se défouler, écouter de la variété. Le jazz, c'est peu de personnes qui écoutent le jazz.
Pourtant, de nombreux rendez-vous existent sur le continent, comme à Saint-Louis ou à Ouagadougou. preuve d'une grande richesse du jazz africain, mais il manque encore d'une promotion suffisante. Doudou Sarr est l'un des créateurs du Dakar Music Expo.
Il n'y a pas assez de représentation, il n'y a pas assez de marketing autour de ça, il n'y a pas assez de ressources financières qui sont mises dans la promotion et l'exportation des musiques africaines.
Pour Doudou Sarr, l'un des arguments de vente du jazz africain est de réclamer la maternité de ce genre, créé par les Afro-Américains descendants d'esclaves aux États-Unis. Il faut aussi mettre en avant sa singularité, inspirée des nombreuses traditions propres à chaque pays, Mahouto Dik de Togo Jazz.
Lionel Loueke, qui est un guitariste très émérite, un béninois, qui accompagne Herbie Hancock, voilà, il fait du jazz. Mais par contre, il s'inspire de sa tradition béninoise pour composer, même quand on prend Angélique Kidjo, ben, certains de ses chants viennent des couvents vaudous.
Les festivals étrangers, comme Marseille Jazz des 5 continents, veulent faire une place à ce jazz africain. Pour son directeur Hugues Kieffer, le Dakar Music Expo est un lieu idéal de rencontre. Il veut montrer aux jeunes talents qu'il existe une grande scène jazz dans le monde.
Il faut qu'ils aient la conscience, je pense, de leur identité à travers la scène et justement de ne pas singer, de ne pas rentrer dans des modèles qu'on leur donnerait sans atteindre justement les millions. Mais on peut rencontrer une audience qui est intéressée et à travers le monde, il existe aussi une autre scène qui est aussi très intéressante et qui permet d'exprimer différemment peut-être ce qu'on est.
Doudou Sarr, également promoteur musical, se bat pour placer ses talents jazz. Il a conclu un partenariat avec le grand festival allemand Jazz Ahead et leur propose chaque année plusieurs artistes. À Marseille, le bassiste Alion Ouad sera sur scène cette année. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Notre reportage Afrique au Sénégal à retrouver sur RFI.fr. Vous y retrouvez aussi Doudou Sarr, qui était le grand invité Afrique de Léa Lisa Vesteroff hier matin. Bientôt 7h en temps universel, prochain journal dans 4 minutes sur RFI. Et avant le retour de l'info, une petite parenthèse avec 100% création à la rencontre aujourd'hui des fondateurs de l'atelier Horizon Vert et de sa large gamme d'objets, de pièces uniques aux luminaires en passant par le mobilier. Maria Afonso les a rencontrés lors du salon professionnel Maison et Objets, un salon international qui donne le ton aux professionnels de la décoration et un incontournable pour les marques, les créateurs et les artisans d'art.
On a étudié de nombreuses techniques du verre. Et nous, ce qu'on voulait vraiment réaliser dans notre atelier, c'est avoir beaucoup de techniques pour créer des pièces où on rassemble toutes ces techniques pour tous les horizons du verre.
Et on rentrait du Québec et il y avait aussi les horizons de vie. Vu qu'on venait de passer quand même 3 ans à l'étranger, il y avait aussi cet aspect par rapport à notre vie, un gros côté professionnel, on va dire, et puis aussi un petit côté personnel.
Mélanie Gracia et Justin Emery, cofondateurs de l'atelier Horizon Vert. Mélanie Gracia a suivi une formation en art appliqué avant de se spécialiser dans le verre en France et au Québec. Elle s'inspire des textures et des formes naturelles pour créer des œuvres qui invitent à la réflexion sur la relation entre l'homme et son environnement. Elle utilise diverses techniques pour réaliser des œuvres poétiques et symboliques. Justin Emery, quant à lui, après son parcours académique en France et 3 années d'études au Québec, s'inspire de la nature. Il cofonde l'atelier Horizon Vert avec Mélanie Gracia et ses créateurs verriers partagent la passion du verre. Leur processus créatif est à la fois individuel et collectif. Mélanie Gracia.
Pour l'instant, on a chacun un peu nos gammes. Après, c'est sûr qu'on s'inspire, on se questionne mutuellement sur est-ce que ça va, qu'est-ce que t'en penses, tout ça. On s'aide à l'atelier, on travaille sur les mêmes pièces. Après, l'idée fixe de base, elle part un peu de l'un et l'autre. Mais on voudrait faire des projets vraiment ensemble, où là, on réfléchit de A à Z ensemble à une pièce en commun.
L'atelier Horizon Vert est un lieu où Mélanie et Justin utilisent d'autres matériaux, comme le métal et le bois, pour élargir leur champ d'expression artistique. Justin Emery.
C'est exaltant de travailler d'autres matériaux et puis peut-être un peu moins, entre guillemets, ennuyant que d'être tout le temps bloqué sur un seul et même matériau. Et donc, inclure d'autres matériaux, ça permet d'avoir d'autres textures, ça permet de travailler le métal. C'est-à-dire que je vais faire du verre pendant un mois, puis je vais avoir une semaine de métal, 2 semaines de bois. Ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis, d'un point de vue visuel, c'est les matériaux qui se mélangent, c'est les textures, les contrastes, toutes ces choses-là.
Retrouvez l'univers de l'atelier Horizon Vert sur RFI.fr chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso pour 100% création, bientôt 8h à Paris. Le journal dans une minute sur RFI, à tout de suite.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM. Pointe-au-Sel, 103.2 FM.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Il aurait eu 100 ans cette année. Malcolm X a été assassiné le 21 février 1965. Si sa vie est connue, sa relation à l'Afrique l'est moins. Tournées, discours du Caire, rencontres avec les leaders du continent, héritier potentiel, je vous raconte ses liens, faits de conviction et d'opportunisme.
Afrique, mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU, sur RFI.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Les persécutions religieuses ont connu une augmentation l'an dernier envers les communautés chrétiennes, selon l'index publié en janvier 2025, mais aussi envers les musulmans, notamment en Inde. Cette tendance à la hausse est observée dans plusieurs régions, dont la zone Sahel.